Chapitre 7. Un soir, je me trouvais dans mon laboratoire. Le soleil avait disparu et la lune venait juste de se lever au-dessus de la mer. Il ne me restait plus assez de lumière pour travailler et je demeurais là, perplexe, me demandant si j'allais abandonner ma tâche pour la nuit ou si, en m'appliquant plus encore, je ne pourrais pas plus vite la mener à bonne fin. Comme je m'interrogeais, une foule de pensées vinrent m'assaillir, et je me mis à réfléchir sur les conséquences de mon acte. 3 ans plus tôt, je m'étais déjà engagé dans la même voie, et j'avais créé un démon dont l'effroyable barbarie m'avait déchiré le cœur et avait fait naître en moi les remords les plus amers. Et maintenant, j'étais sur le point de fabriquer une autre créature dont je ne savais pas quelles seraient les dispositions d'esprit. Elle pouvait être 1000 fois plus mauvaise que la première et prendre plaisir à tuer et à semer la désolation. Le démon, lui, avait juré de quitter le voisinage des hommes et de se cacher dans les déserts. Mais que dire de sa compagne ? Elle qui, selon toute probabilité, allait devenir un animal doué de pensée et de raison, refuserait peut-être de se soumettre à un pacte conclu avant sa création. Et s'ils se haïssaient mutuellement ? Le monstre qui existait déjà et qui avait en horreur sa propre difformité n'allait-il pas se détester plus encore quand il verrait sous ses yeux sa réplique féminine ? Et celle-ci également serait peut-être amenée à se détourner de lui pour préférer la beauté des hommes. Si jamais elle l'abandonnait, il se retrouverait seul, ulcéré par cette nouvelle provocation faite par une créature de son espèce. Et si même il quittait l'Europe et allait habiter les déserts du Nouveau Monde, l'un des premiers effets de cette sympathie dont le monstre avait tant besoin serait une procréation, une race de démons se propagerait sur le monde et tout en semant la terreur mettrait l'existence du genre humain en péril. Avais-je le droit, pour servir mes propres intérêts, d'infliger cette malédiction sur les générations à venir ? J'avais d'abord été touché par les sophismes de l'être que j'avais créé et je m'étais laissé impressionner par ces menaces diaboliques, mais maintenant, pour la première fois, le péril que constituait ma promesse s'imposa à moi. Je tremblais en pensant que les générations futures me maudiraient comme la peste, moi qui n'avais pas hésité, pour sauvegarder ma propre paix, de compromettre sans doute la survie de la race humaine tout entière. Je frissonnais. Mon cœur se souleva tout à coup lorsque, redressant la tête, je vis au clair de lune le monstre qui me fixait par la fenêtre. Un rictus immonde lui tordait les lèvres au moment où il me regardait, alors qu'il était venu constater l'état d'avancement des travaux qu'il m'avait imposés. Ainsi donc, il m'avait suivi dans mes périples. Il avait parcouru les forêts, s'était dissimulé dans des grottes, s'était réfugié parmi les bruyères et les landes désertes. Et à présent, il venait pour apprécier mes progrès et exiger que je remplisse ma promesse jusqu'au bout. Tandis que je le regardais, sa figure exprima la traîtrise et la malice la plus noire. Je me rendis compte à quel point j'avais été fou de lui promettre une créature qui lui ressemblerait, et, tremblant à l'excès, je mis en pièces tout ce que j'avais entrepris. Le monstre me vit détruire la créature dont l'existence future allait lui assurer le bonheur, et avec un hurlement de désespoir et de vengeance, il disparut. Je quittai le laboratoire et, après avoir fermé la porte à clé, je fis le serment solennel de ne plus jamais reprendre mes travaux. Puis, d'un pas hésitant, je gagnai ma chambre à coucher. J'étais seul. Personne n'était à mes côtés pour dissiper ma tristesse et m'arracher de ce climat oppressant de cauchemar épouvantable. Les heures s'écoulèrent. Je me tenais près de la fenêtre et regardais en direction de la mer. Elle était presque immobile car le vent était tombé. Toute la nature se reposait sous le regard tranquille de la lune. Quelques barques de pêcheurs se détachaient seulement sur l'eau, et de loin en loin une brise légère amenait jusqu'à moi le bruit des voix des pêcheurs qui se hélaient. Je percevais le silence, bien que je n'eusse pas tout à fait conscience de son étendue. Mais soudain, j'entendis un bruit de rames le long du rivage et quelqu'un débarqua tout près de ma maison. Quelques minutes plus tard, je m'aperçus que ma porte grinçait, un peu comme si on cherchait à ouvrir avec douceur. Je tremblais de la tête aux pieds. J'avais le pressentiment de savoir qui c'était et je me dis que je devais appeler un de mes voisins. Mais j'éprouvais cette impression d'abandon qu'on a si souvent dans les rêves quand on essaie en vain de chasser un danger qui vous menace. Je ne pouvais pas bouger. Bientôt, je perçus des bruits de pas dans le couloir. La porte s'ouvrit et le monstre que je craignais fit son apparition. Il ferma la porte, s'approcha de moi et me dit d'une voix assourdie « Tu as détruit l'œuvre que tu avais commencée, mais quelle est donc ton intention ? Oserais-tu rompre ta promesse ?» J'ai essuyé bien les souffrances et les misères. J'ai quitté la Suisse en même temps que toi. J'ai parcouru les rives du Rhin, traversé ces îles couvertes de saules et les sommets de ces montagnes. De nombreux bois, j'ai vécu au milieu des landes anglaises et dans des endroits déserts en Écosse. J'ai dû affronter la fatigue, le froid, la faim. Pourrais-tu annihiler mes espérances? Va-t'en. Je rends mon engagement. Jamais je ne créerai un être qui te ressemble, qui est ta laideur et tes turpitudes. Esclave, j'ai parlé avec toi il y a quelque temps, mais tu as montré que tu étais indigne de ma condescendance. Souviens-toi que je suis puissant. Tu te crois peut-être malheureux, mais je peux t'accabler plus encore au point que tu en viendras à détester la lumière du jour. Tu es mon créateur, mais moi, je suis ton maître. Tu obéiras. L'heure de mon hésitation est révolue, et voilà que commence l'ère de ton pouvoir. Tes menaces ne pourront pas me pousser à accomplir un acte de cruauté. Au contraire, elles ne font que renforcer ma détermination de ne pas créer ta compagne de vice. Pourrais-je, de sang-froid, lâcher sur la terre un démon qui ne se complaît que dans le meurtre et le mal? Va-t'en. Je suis inébranlable et tes paroles ne pourraient qu'exaspérer ma fureur. Le monstre lut sur mon visage à quel point j'étais déterminé. Et dans sa rage impuissante, il se mit à grincer les dents. Chaque être humain, s'écria-t-il, peut s'associer à un de ses semblables. Chaque animal est doté d'une femelle, et tu voudrais que je reste seul? J'avais des sentiments d'affection, et n'y a répondu que par la haine et le mépris. Homme, tu peux me détester! Mais fais attention. Tes jours se passeront dans la souffrance et le malheur, et bientôt je frapperai le coup qui t'enlèvera la paix pour toujours. Seras-tu heureux si moi je devais ramper sous le poids de ma détresse? Tu as la possibilité de me priver de toute passion, mais la vengeance, elle restera. La vengeance qui me sera aussi indispensable que la lumière et la nourriture. Je mourrai peut-être, mais auparavant toi, mon tyran et mon bourreau, tu maudiras le soleil qui verra toutes tes infortunes. Prends garde, parce que je suis sans peur et tout-puissant. Je vais te guetter avec la ruse du serpent pour venir te piquer avec son venin. Homme, tu te repentiras des maux que tu m'affliges. Cela suffit, démon, n'empoisonne pas l'air de tes paroles immondes. Je t'ai fait part de ma décision et je ne suis pas lâche pour céder devant tes menaces. Disparais, je reste inflexible. C'est bien. Je m'en vais, mais rappelle-toi. Tu me retrouveras la nuit de tes noces. » Je bondis sur lui et m'exclamai : « Odieuse créature, avant de signer mon arrêt de mort, essaie d'assurer ta propre survie. » Je voulus le saisir, mais il m'évita et se précipita hors de la maison. Après quelques instants, je le vis sur sa barque qui filait sur l'eau à la vitesse d'une flèche, et bientôt il disparut au milieu des vagues. Tout était de nouveau silencieux, mais les paroles du monstre résonnaient encore à mes oreilles. Bouillant de rage, je voulais poursuivre l'assassin et le précipiter dans l'océan. Perturbé à l'extrême, je me mis à arpenter ma chambre, tandis que mon imagination me suggérait mille figures qui me tourmentaient et me faisaient souffrir. Pourquoi ne l'avais-je pas suivi pour me mesurer avec lui dans un combat mortel? Mais je l'avais laissé partir, et il avait gagné directement le continent. Je tremblais en me demandant quelle serait la prochaine victime offerte en sacrifice à son insatiable vengeance. Et je me rappelais alors ces paroles : tu me retrouveras la nuit de tes noces. C'était donc à ce moment-là que s'accomplirait ma destinée. Ce jour-là, j'allais mourir et ainsi seraient satisfaits ses instincts pervers. Cette idée me fit peur. Pourtant, comme je pensais à ma tendre Élisabeth, la voyant verser des larmes de tristesse parce qu'on m'avait arraché de ses bras celui qu'elle aimait pour la première fois depuis des mois, je me mis à pleurer et je décidai de tout entreprendre pour ne pas succomber aux griffes de mon ennemi. La nuit se passa et le soleil se leva sur l'océan. J'étais un peu plus calme, si tant est qu'on puisse parler de calme, quand la rage la plus violente cède la place au désespoir le plus profond. Je quittai ma maison où s'était déroulée l'épouvantable scène de la nuit dernière et allai me promener le long du rivage. La mer me fit l'impression d'une barrière insurmontable dressée entre mes semblables et moi. Oh, si au moins cela avait été possible! J'aurais voulu passer mon existence sur ce rocher dénudé, péniblement, sans aucun doute, mais ne devant plus subir le choc soudain d'un malheur. Si je partais, ce serait pour être sacrifié ou pour voir un de ceux que j'aimais tomber sous l'empire du démon que j'avais moi-même créé. J'errais sur l'île comme un spectre inquiet, séparé de tout ce qui était ma joie, meurtri par cette séparation. Vers midi, alors que le soleil était à son zénith, je me couchais sur l'herbe et m'abandonnais à un profond sommeil. J'avais veillé toute la nuit précédente, j'avais les nerfs à bout et les yeux alourdis par la fatigue et la tourmente. Le sommeil où je me perdis me fit du bien. Quand je me réveillais, je sentis que j'appartenais à nouveau au genre humain et me mis à réfléchir sur les événements avec une plus grande lucidité. Néanmoins, les paroles du monstre, tel un glas, me résonnaient toujours aux oreilles. On aurait dit qu'elles faisaient partie d'un rêve et en même temps, elles étaient distinctes et réellement oppressantes. Le soleil était déjà bas et je me retrouvais sur la grève en train d'apaiser ma faim en mangeant une galette de maïs quand je vis une barque de pêcheurs venir vers moi ainsi qu'un homme qui m'apportait un paquet. Ce paquet contenait des lettres en provenance de Genève et une qui m'avait été adressée par Clerval. Il disait qu'il perdait un peu son temps et que ses amis de Londres souhaitaient son retour pour conclure les négociations qu'il avait entamées en vue de son départ aux Indes. Celui-ci ne désirait pas le retarder davantage, mais puisque son séjour à Londres serait suivi plus vite qu'il ne l'avait supposé d'un très long voyage, il me suppliait de lui accorder le plus de temps possible. Il voulait donc que je quitte mon île solitaire et le rencontre à Perth, d'où nous pourrions repartir vers le sud. Cette lettre, jusqu'à un certain point, me rappela vers la vie et je décidai de prendre la route dans les 2 jours. Toutefois, avant de partir, il me fallait encore accomplir une tâche qui me dégoûtait. Je devais emballer mon matériel et, pour ce faire, entrer dans la pièce qui avait été le théâtre de mon odieuse besogne et manipuler des instruments dont la vue m'horripilait. Le lendemain, à l'aube, je m'armai de courage et ouvris la porte de mon laboratoire. Les restes de la créature inachevée que j'avais détruite étaient jonchés sur le sol et j'eus l'impression que j'avais mutilé la chair vivante d'un être humain. J'hésitais avant de reprendre mes esprits et de pénétrer dans le laboratoire. En tremblant, j'emportai mes instruments hors de la pièce, mais je me dis que je ne pouvais pas abandonner les restes de mon œuvre sinon pour exciter l'horreur et la suspicion chez les paysans. Aussitôt, je les réunis dans un panier sur lequel je plaçai une grande quantité de pierres et je décidai de le jeter dans la mer cette même nuit. Puis je descendis sur la place et me mis à nettoyer et à ranger mon matériel. Depuis la nuit où le démon m'était apparu, j'avais subi une transformation radicale et aucun être humain peut avoir changé à ce point. Auparavant, je considérais que ma promesse devait être tenue en dépit du profond désespoir qu'elle faisait naître en moi et nonobstant toutes les conséquences possibles. Mais à présent, il me semblait qu'un voile s'était déchiré devant mes yeux et que pour la première fois, je voyais les choses clairement. Pas un seul instant ne me revint l'idée de reprendre mes travaux. Certes, existait toujours la menace que le monstre faisait peser sur moi, mais je ne pensais pas qu'un acte volontaire de ma part pût l'annihiler. Je savais que créer un second monstre semblable au premier était la marque de l'égoïsme le plus abject et le plus atroce, et je bannis de mon esprit toute pensée qui m'aurait amené à une autre conclusion. La lune se leva entre 2 ou 3 heures du matin. À ce moment, je mis mon panier dans une petite embarcation et m'éloignai des côtes d'environ 4 milles. L'endroit était parfaitement solitaire. Quelques bateaux gagnaient la terre, mais je les évitais. J'avais le sentiment que j'étais sur le point de commettre un crime affreux, et j'avais atrocement peur de rencontrer un être humain. Bientôt, la lune qui brillait jusque-là disparut derrière un épais nuage, et je profitai de l'obscurité pour jeter mon panier dans la mer. J'entendis un clapotis comme le panier fendait les flots. Le ciel était devenu nuageux, mais l'air était pur, quoique refroidi par le vent du nord qui s'était levé. Mais cela me rafraîchit et me causa une sensation si agréable que je voulus encore rester sur l'eau. Je bloquai le gouvernail et m'étendis au fond de l'embarcation. Des nuages cachaient la lune, les ténèbres s'épaississaient, et je n'entendais plus que le bruit du bateau fouetté par les vagues. Bercé par ce murmure, je m'endormis après très peu de temps. Combien de temps suis-je resté là? Je ne pourrais pas le dire. Mais lorsque je me réveillais, je m'aperçus que le soleil brillait déjà très haut, au milieu des cieux. Le vent était violent et les vagues soulevaient de plus en plus fortement mon petit bateau. Je me rendis compte que le vent soufflait du nord-est et que je devais me trouver très loin de l'endroit où je m'étais embarqué. Je m'efforçais de changer de trajectoire, mais très vite, je constatai que par là, je risquais de faire chavirer mon bateau. Dans ces conditions, ma seule ressource consistait à me laisser pousser par le vent. J'avoue que ma panique était grande. Je n'avais pas de boussole avec moi, et je connaissais si mal la géographie de cette partie du monde que la position du soleil ne pouvait pas me servir. J'aurais pu dériver vers l'Atlantique et y connaître les affres de la faim et de la soif avant d'être englouti par les eaux qui grondaient et mugissaient alentour. Il y avait déjà plusieurs heures que j'étais parti et je commençais à éprouver les tourments de la soif, prélude à d'autres souffrances. Je regardais les cieux qui étaient couverts de nuages, lesquels sans cesse étaient poussés par les vents. Puis je contemplais la mer, elle pouvait être ma tombe. « Monstre !» m'écriai-je, « ta tâche est donc accomplie !» Je songeais à Élisabeth, à mon père, à Calerval. Ils étaient abandonnés désormais à la merci des passions et des instincts sanguinaires du monstre. Et cette pensée ne fit qu'attiser mon désespoir et me fit tellement souffrir que maintenant encore, alors que le drame va connaître son déroulement, j'en frémis. Plusieurs heures se passèrent ainsi. Puis, petit à petit, tandis que le soleil descendait sur l'horizon, le vent ne devint plus qu'une brise légère et les vagues furent moins fortes. Mais la houle, elle, ne disparut pas. Je me sentais malade, incapable de tenir le gouvernail, lorsque soudain j'aperçus des falaises en direction du sud. Épuisé comme je l'étais par la fatigue et la détresse que j'avais dû endurer durant des heures, j'eus pourtant la subite certitude que j'allais revivre. Mon cœur s'emplit de joie et les larmes coulèrent de mes yeux. Comme les sentiments sont variables, comme est étrange cet amour de la vie qui transcende l'excès de la tourmente. En me servant d'une partie de mes vêtements, je fabriquai une autre voile et mis rapidement le cap sur la terre. C'était à première vue une terre sauvage et rocailleuse, mais comme j'approchais, j'aperçus aisément des traces de culture. Je vis des navires en bordure du rivage et me trouvai tout à coup transporté dans le monde des hommes civilisés. Je longeai soigneusement les côtes et me guidai sur un clocher dont je pouvais distinguer le sommet au-delà d'un promontoire. Comme j'étais extrêmement faible, je décidai de gagner directement la ville où je pourrais plus facilement me procurer de la nourriture. Par bonheur, j'avais de l'argent sur moi. En contournant le promontoire, j'aperçus une charmante ville ainsi qu'un joli port où j'entrai, heureux d'avoir pu échapper à mon triste sort. Tandis que j'amarrais mon bateau et pliais les voiles, quelques personnes arrivèrent vers l'endroit où je me tenais. Elles semblaient fort surprises de me voir, mais au lieu de me porter secours, elles se mirent à parler entre elles avec des gestes qui, en toute autre occasion, m'auraient inquiété. Je remarquai uniquement qu'elles parlaient anglais, et c'est dans cette langue que je leur adressai la parole. « Mes chers amis, dis-je, auriez-vous l'amabilité de me faire connaître le nom de cette ville et de me dire où je suis ?»« Vous le saurez bientôt, » me répondit un homme d'une voix rude. « Peut-être vous trouverez-vous dans un endroit qui ne sera pas vraiment à votre goût, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne demande pas votre avis pour vous loger. » J'étais particulièrement surpris de recevoir une réponse aussi brutale d'un étranger, et j'étais tout aussi déconcerté de lire l'hostilité sur le visage de ses compagnons. « Mais pourquoi me répondez-vous aussi bourrument, dis-je ? Ce n'est certes pas dans les habitudes des Anglais d'accueillir les étrangers de façon inhospitalière. »« Je ne sais pas, dit l'homme, quelle peut être l'habitude des Anglais, mais c'est l'habitude des Irlandais de haïr les vermines. » Tandis que se poursuivait ce curieux dialogue, je voyais la foule rapidement grossir. Les visages exprimaient un mélange d'intérêt et de colère qui peu à peu me troubla et me fit peur. Je demandai le chemin d'une auberge, mais on ne me répondit pas. Je m'avançai et un murmure s'éleva de la foule qui me suivait et m'entourait. Alors surgit un individu qui n'avait pas l'air agréable et qui me tapa sur l'épaule. « Venez, monsieur, me dit-il, vous devez me suivre chez monsieur Kirwin et vous expliquer avec lui. »« Mais qui est monsieur Kirwin ? Et pourquoi donc dois-je m'expliquer ? Je ne suis pas dans un pays libre ?»« Oui, monsieur. » « Libre pour les gens honnêtes. Monsieur Kirwin est magistrat, vous vous expliquerez avec lui sur la mort d'un homme qui a été assassiné ici la nuit dernière. » Cette réponse me fit tressaillir, mais très vite je me contrôlai. J'étais innocent, je pouvais aisément le prouver. Je suivis donc mon guide en silence, et je fus conduit dans une des plus belles maisons de la ville. Je n'étais pas loin de tomber de fatigue et de faim, mais avec la foule qui m'entourait, je me dis qu'il était bon de ne pas me laisser aller, car une défaillance aurait pu signifier à leur vœu que j'avais peur ou que j'étais coupable. Pourtant, je ne m'attendais guère à la calamité qui allait survenir quelques instants plus tard, et étouffer dans l'horreur et le désespoir toute crainte d'ignominie et de mort. Oh, il faut que je m'interrompe un peu, car je dois rassembler toutes mes forces pour me rappeler dans le moindre détail les événements faramineux que je vais vous relater. Je fus bientôt conduit devant un magistrat, un vieillard bienveillant aux allures calmes et distinguées. Il me regarda néanmoins avec une certaine gravité, puis se tournant vers les gens qui m'accompagnaient, il demanda quels étaient les témoins de l'affaire. Une demi-douzaine d'hommes se présentèrent. Le magistrat désigna l'un d'entre eux, lequel fit sa déposition. Il déclara qu'il était parti pêcher la veille au soir avec son fils et son beau-frère, Daniel Nugent, mais que vers 10 heures, après avoir observé que le vent du nord était en train de se lever, ils avaient préféré regagner le port. C'était une nuit sans lune extrêmement obscure. Au lieu d'accoster dans la rade, ils avaient mouillé, selon leur habitude, dans une crique plus ou moins de 1000 plus bas. Il était parti le premier, muni d'une partie du matériel de pêche, alors que ses compagnons le suivaient à quelque distance. Comme il avançait le long de la grève, il avait heurté du pied quelque chose et s'était de tout son long étalé sur le sol. Ses compagnons lui avaient porté secours et, à la clarté de leur lanterne, il s'était rendu compte qu'il était tombé sur le corps d'un homme mort selon toute apparence. Ils avaient d'abord cru que c'était là le cadavre d'un noyé rejeté par la mer sur le rivage. Mais par la suite, ils avaient remarqué que les vêtements de l'homme n'étaient pas mouillés et même que le corps n'était pas encore tout à fait froid. Ils l'avaient immédiatement transporté dans la maison d'une vieille femme qui habitait les environs et avaient essayé en vain de le ranimer. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'un jeune homme qui devait avoir dans les 25 ans. À première vue, il avait été étranglé et en dehors d'une marque de doigts noirs autour du cou, on ne voyait sur lui aucune trace de violence. La première partie de cette déposition ne me concernait nullement. Mais lorsque fut mentionnée la marque de doigts, je me souvins du meurtre de mon frère et me sentis extrêmement secoué. Mes membres tremblaient, un voile me couvrit les yeux et je dus m'appuyer sur une chaise pour me retenir. Le magistrat m'observait d'un œil attentif, et naturellement mon attitude ne présageait rien de bon. Les propos du pêcheur furent confirmés par son fils. Mais quand Daniel Nugent prit la parole, il affirma catégoriquement que, juste avant la chute de son compagnon, il avait vu un bateau, il n'y avait qu'un homme à une faible distance du rivage. Et pour autant qu'il était possible d'en juger à la lueur de quelques rares étoiles, c'était là le même bateau que celui dans lequel j'avais accosté. Puis une femme qui vivait près de la plage et s'était tenue sur le seuil de sa maison pour guetter le retour des pêcheurs, déclara qu'une heure avant qu'on ne lui apprenne la découverte du corps, elle avait aperçu un bateau n'ayant qu'un seul homme à bord, tout près du rivage, non loin de l'endroit où on avait trouvé le cadavre. La femme, chez qui les pêcheurs avaient apporté la malheureuse victime, confirma les faits. Le corps n'était pas froid, on l'avait étendu sur un lit et on l'avait frictionné. Bien que le jeune homme fût sans vie, Daniel s'était rendu en ville pour quérir un apothicaire. Plusieurs autres personnes furent interrogées au sujet de mon accostage. Elles s'accordèrent pour dire que par suite du vent du nord qui s'était levé au milieu de la nuit, il était presque certain que j'avais dérivé durant de nombreuses heures et que j'avais été contraint de revenir tout près de mon point de départ. En outre, ils firent observer que j'avais vraisemblablement amené le corps d'un autre endroit et que, ne connaissant sans doute pas la côte, j'avais gagné le port sans savoir quelle distance séparait la ville du lieu où j'avais déposé le cadavre. Après avoir écouté ces déclarations, M. Kirwin souhaita me conduire dans la pièce où on avait placé le corps en attendant l'inhumation. Il voulait sans doute se rendre compte de l'effet qu'exercerait sur moi ce spectacle. L'idée lui était probablement venue au moment où j'avais manifesté une grande fébrilité alors que les circonstances du meurtre étaient décrites. Je fus donc emmené à l'auberge, escorté par le magistrat et par de nombreuses autres personnes. les étranges coïncidences de cette nuit fatidique ne pouvaient pas manquer de m'impressionner. Pourtant, comme je savais très bien que j'étais en train de discuter avec les habitants de mon île à l'heure où le cadavre avait été découvert, je ne me faisais aucune inquiétude sur les conséquences de cette affaire. J'entrai dans la pièce où on avait déposé le corps et m'approchai du cercueil. Oh, comment décrire mes réactions en découvrant le cadavre? Je me sens encore sous le coup de l'horreur, et je ne peux pas penser à cet épouvantable instant sans souffrir le martyre. L'interrogatoire, la présence du magistrat et des témoins, tout comme dans un rêve disparu de mon esprit, lorsque je vis couché devant moi le corps inanimé de Henri Clerval. Je chancelai, et me précipitant sur lui, je m'écriai: « Mes machinations criminelles ont eu également raison de ton existence, mon cher Henri. J'ai déjà détruit deux êtres humains. D'autres victimes vont encore succomber. Mais toi, Clerval, mon ami, mon bienfaiteur... » Un homme ne peut pas supporter longtemps une telle douleur. En proie à de violentes convulsions, je fus conduit hors de la pièce. La fièvre me saisit, et pendant 2 mois, je fus entre la vie et la mort. Mes délires, je l'appris plus tard, étaient effroyables. Je m'accusais du meurtre de William, de Justine, de Clerval. Parfois, je suppliais ceux qui m'assistaient de détruire le démon qui me tiraillait. Parfois aussi, je sentais les doigts du monstre qui me serrait le cou et je hurlais de terreur. Par bonheur, comme je m'exprimais dans ma langue maternelle, seul M. Krivine me comprenait. Mais mes gesticulations et mes cris suffisaient à effrayer les autres témoins. Pourquoi ne suis-je pas mort? Moi qui suis l'homme le plus misérable de la terre, j'aurais dû, n'est-ce pas, disparaître dans l'oubli et le néant. La mort emporte bien d'innombrables enfants en qui leurs parents avaient mis toutes leurs espérances. Et combien de fiancés, de jeunes amants, après avoir connu le plaisir et l'ivresse, sont du jour au lendemain menés au tombeau et rongés par les vers. Mais de quoi étais-je donc fait pour résister à toutes ces épreuves qui, sans cesse comme la roue des supplices, venaient me torturer? Mais j'étais condamné à vivre. Au bout de 2 mois, comme au sortir d'un rêve, je m'aperçus que j'étais en prison, étendu sur un grabat, entouré de gardiens, de verrous, de barrières et de tout ce qui se trouve dans un cachot. C'était un matin, je me le rappelle, quand je me rendis compte de ma situation. J'avais oublié les détails des événements que j'avais vécus, et il me semblait seulement qu'un grand désastre s'était abattu sur moi. Mais alors que je regardais alentour et voyais les fenêtres pourvues de barreaux et l'exiguïté de mon cachot, tout me revint en mémoire et je tressaillis de chagrin. Le bruit réveilla une femme âgée qui dormait sur une chaise à côté de moi. Elle était garde-malade, la femme d'un des geôliers. Ses traits exprimaient tous les vices qui caractérisent cette race de gens. Les lignes de son visage étaient grossières et rudes, comme celles des personnes habituées à voir ma misère sans jamais s'en émouvoir. Le ton de sa voix traduisait la plus totale indifférence. Elle me parla en anglais, et son intonation me frappa comme si je l'avais déjà perçue du fond de mon délire. « Vous vous sentez mieux à présent ?» me demanda-t-elle. Je lui répondis dans la même langue d'une voix affaiblie. « Je crois que oui. Mais si tout cela est vrai, si tout cela n'est pas un rêve, je regrette d'être encore en vie et de ressentir tant de souffrances et tant d'horreurs. » « Pour ça, oui ?» me répondit la vieille femme. Si vous voulez parler du monsieur que vous avez tué, je crois qu'il aurait mieux fallu que vous fussiez mort, car j'ai l'impression qu'on va être dur envers vous. Ce ne sont pas mes affaires. Je suis ici pour vous soigner et pour vous aider à vous rétablir, et je remplis consciencieusement mon office. Ce serait bien si tout le monde en faisait autant. Je me détournais avec dégoût de cette femme qui était capable d'adresser des paroles aussi inhumaines à un homme qui venait tout juste d'échapper à la mort. Mais je me sentais encore faible dans l'impossibilité de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Tous les événements de ma vie me semblaient avoir été des rêves. Parfois, je me demandais aussi si c'était vrai, car rien ne se présentait à mon esprit avec la clarté d'une évidence. Au fur et à mesure que ces images floues se précisaient, je devenais plus fiévreux. Les ténèbres se pressaient autour de moi. Il n'y avait personne à mes côtés pour me parler d'une voix douce et affectueuse, aucune main pour me secourir. Le médecin venait, me prescrivait les remèdes que la vieille femme préparait à mon intention. Mais le premier me manifestait de l'indifférence et sur le visage de la seconde ne se reflétait que la rudesse. Qui, en dehors du bourreau qui était payé pour me pendre, pouvait s'intéresser au sort d'un assassin? C'étaient là les idées qui me traversaient l'esprit. Cependant, j'appris bientôt que M. Kirwin avait eu pour moi les meilleures attentions. Il avait fait en sorte que ma geôle fût la plus convenable de la prison, elle restait bien misérable, et que je puisse être secouru par un médecin et une garde malade. Il est vrai qu'il ne venait pas me voir souvent. Quoiqu'il fût désireux de soulager les souffrances d'un être humain, il ne voulait sans doute pas assister aux tourments et aux lamentables divagations d'un assassin. Il venait donc de temps à autre constater que l'on ne me négligeait pas trop, mais ses visites étaient brèves et fort espacées. Un jour, alors que peu à peu je me rétablissais, j'étais assis sur une chaise, les yeux à moitié ouverts, le visage aussi livide que celui d'un mort, plongé dans ma propre misère, et je me disais qu'il valait mieux que je meure plutôt que de retrouver un monde où tout me rappellerait mes infortunes. En même temps, je songeais à me déclarer coupable et à me soumettre aux épreuves de la loi, ainsi que Justine l'avait fait, alors même qu'elle était innocente. Comme ces pensées me venaient, la porte de ma cellule s'ouvrit et M. Kirwin fit son apparition. Son visage exprimait la sympathie et la compassion. Il s'assit sur une chaise à côté de moi et m'adressa la parole en français. « Je crains que cet endroit ne vous rebute, dit-il. Puis-je faire quelque chose qui serait de nature à améliorer votre sort ?»« Je vous remercie, mais tout cela n'a plus d'importance pour moi. » Je ne pourrai plus jamais, sur cette terre, recevoir de consolation. Je sais que la sympathie d'un étranger risque d'être sans effet sur quelqu'un comme vous, frappé d'une si curieuse disgrâce. Mais j'espère que bientôt vous pourrez quitter ce lieu de misère, car je ne doute pas qu'on réussira à trouver un témoignage qui vous innocentera de ce crime. C'est bien le dernier de mes soucis. Par un étrange concours de circonstances, je suis devenu le plus misérable des mortels. Persécuté et torturé comme je l'ai été et comme je le suis, puis-je encore craindre la mort? Mais rien en effet n'est plus affreux ni plus triste que tout ce qui s'est passé dernièrement. À la suite d'un accident bizarre, vous avez été jeté sur ce rivage, réputé pour son hospitalité, puis aussitôt arrêté et accusé de meurtre. Et la première chose qu'on a mise sous vos yeux, C'est le corps de votre ami, tué de manière inexplicable et placé en quelque sorte par quelques démons sur votre chemin. » Tandis que M. Kirwin parlait, en dépit du trouble que me causait le rappel de mes souffrances, j'étais fortement surpris d'apprendre qu'il en savait beaucoup sur moi. Je suppose qu'il fut étonnement sur mes traits, car il s'empressa d'ajouter « Après que vous êtes tombé malade, tous les papiers qui se trouvaient sur vous m'ont été apportés. Je les ai examinés afin de pouvoir découvrir quelques renseignements susceptibles de mettre votre famille au courant de vos malheurs et de votre état. J'ai trouvé quelques lettres et, entre autres, une de votre père. Immédiatement, j'ai écrit à Genève. Et depuis que j'ai envoyé ma lettre, 2 mois se sont écoulés, mais vous êtes toujours malade. Et maintenant encore, vous tremblez. Vous devez être à l'abri de toute émotion. » Attendre me serait 1000 fois plus pénible. Dites-moi donc qui est mort, quel autre meurtre il me faut à présent pleurer. » Votre famille se porte bien, dit M. Kirwin avec gentillesse. Il y a ici un ami qui est venu vous rendre visite. J'ignore la raison pour laquelle cette idée s'imposa à moi, mais à cet instant, je crus que c'était l'assassin qui était venu pour me narguer et me rendre responsable de la mort de Clerval, afin de me pousser de nouveau à satisfaire son désir satanique. Je mis la main devant mes yeux et poussai un cri de désespoir. « Oh, chassez-le, je ne veux pas le voir. Pour l'amour de Dieu, ne le laissez pas entrer !» M. Kirwin me considéra d'un air troublé. Il ne pouvait pas s'empêcher de tenir mon exclamation pour une présomption de ma culpabilité, et il me dit d'un ton sévère « J'aurais pensé, jeune homme, que la présence de votre père aurait été la bienvenue, et voilà qu'elle vous inspire une vive répulsion. »« Mon père ! » m'écriai-je, tandis que tous les muscles de mon visage se relâchaient et que disparaissait mon trouble. « Mon père est donc venu ? Oh, quel homme merveilleux ! Mais où est-il ? Pourquoi ne se dépêche-t-il pas ?» Mon changement d'attitude surprit le magistrat et lui fit plaisir. Sans doute pensait-il que mon exclamation n'avait été qu'un retour éphémère de mon délire. Et de nouveau, il devint affable. Il se leva et quitta la pièce avec la garde malade. Un moment plus tard, mon père entrait. Rien, à cet instant, n'aurait pu me procurer une joie plus complète que cette arrivée. Je lui tendis les mains et m'écriai « Oh, tu es donc sain et sauf, et Élisabeth et Ernest !» Mon père me calma et m'assura que tout le monde allait bien. En abordant des sujets qui étaient chers à mon cœur, il s'efforça ensuite de me redonner courage. Mais bientôt, il se rendit compte qu'une prison n'était pas un havre de bonheur. « Quel endroit tu habites, mon fils ? » dit-il en regardant tristement les fenêtres grillagées et l'aspect sinistre de la cellule. « Tu étais parti en voyage pour trouver le bonheur, mais la fatalité s'acharne sur toi, le pauvre Clerval. » Le nom de mon ami assassiné me causa, dans l'état d'abattement où je me trouvais, une profonde émotion et j'éclatai en sanglots. « Hélas, oui, mon père, répondis-je, une terrible fatalité me poursuit, et je dois vivre pour l'accomplir. Si ce n'était pas le cas, je serais déjà tombé sur le cercueil d'Henri. » On ne nous permit pas de converser plus longtemps, étant donné que mon état de santé précaire nécessitait le calme le plus absolu. M. Kirwin revint et insista pour que je n'épuise pas mes forces dans un effort trop grand. Mais l'apparition de mon père avait ressemblé à mes yeux à celle d'un ange secourable, et peu à peu je recouvrais ma santé. Tandis que la maladie disparaissait, je tombais toutefois dans une sombre mélancolie que rien ne réussissait à dissiper. L'image de Clerval me hantait sans cesse. Clerval assassiné. À plus d'une reprise, l'extrême agitation dont j'étais la proie fit craindre à mon entourage une dangereuse rechute. Hélas, pourquoi tenait-il tant à préserver une existence affreuse et misérable ? C'était sûrement pour que j'accomplisse ma destinée, qui à présent approche de son terme. Bientôt, oh, très bientôt, la mort aura raison de mes tourments et me délivrera de cet écrasant fardeau de souffrance que je porte avec moi. Et une fois la justice exécutée, je connaîtrai le repos. Bien qu'elle fût constamment présente dans mon esprit, la mort me paraissait cependant lointaine. Des heures et des heures, je restais assis, immobile, prostré, attendant une catastrophe brutale qui nous engloutirait, mon destructeur et moi, dans ses ruines. L'ouverture des assises approchait. Il y avait déjà 3 mois que j'étais en prison, et quoique je fusse encore très faible et toujours exposé à une rechute, je fus contraint de parcourir 100 miles pour gagner la ville où siégeait le tribunal. M. Kirwin s'occupa lui-même de convoquer les témoins et de pourvoir à ma défense. On m'épargna la disgrâce de paraître en public comme un criminel, car l'affaire ne fut pas débattue devant la cour qui décide de la peine de mort. Après avoir établi la preuve que je me trouvais bien dans les orcades, quand le corps de mon ami avait été découvert, le grand jury m'acquitta. Et 15 jours après mon transfert, j'étais donc libéré. Le fait que j'étais ainsi lavé de tout soupçon soulagea mon père. J'allais de nouveau respirer l'air pur et revenir au pays natal. Mais je ne partageais pas ces sentiments. Les murs d'une prison ou ceux d'un palais, pour moi, c'était du pareil au même. Désormais, ma vie était empoisonnée. Le soleil avait beau briller pour moi comme pour ceux qui ont le cœur en paix, je ne voyais alentour que des ténèbres épaisses. Je ne distinguais aucune lueur, sinon celle que reflétaient 2 yeux horribles. Et parfois, c'était aussi les yeux d'Henri, obscurcis par la mort, les orbites sombres à demi cachées par les paupières et par la frange des cils. Et parfois encore, c'était les yeux humides et nébuleux du monstre, tels que je les avais vus la première fois dans ma chambre à Ingolstadt. Mon père essayait de ranimer en moi des sentiments d'affection. Il me parlait de Genève, que j'allais revoir bientôt, d'Élisabeth, d'Ernest. Mais ses paroles me faisaient gémir. De loin en loin, certes, je ressentais un besoin de bonheur, et je pensais mélancoliquement à ma cousine que j'aimais, où, envahi par la maladie du pays, je brûlais de revoir le lac bleu et le Rhône rapide qui me plaisaient tellement à l'époque de mon adolescence. Mais mon état général était la torpeur, et peu m'importait alors de me trouver en prison ou de contempler de magnifiques paysages. Mes hébétudes étaient traversées que par des accès d'angoisse et de désespoir. Et dans ces moments-là, je ne songeais qu'à mettre fin à mes jours. Et j'aurais sans doute commis cet acte violent si je n'avais pas été l'objet d'une surveillance rigoureuse. Il me restait pourtant un devoir à accomplir, et ce souvenir eut finalement raison de mon désespoir égoïste. Il était nécessaire que je regagne Genève dans les plus brefs délais pour veiller sur la vie des miens et guetter l'arrivée du meurtrier. Si j'avais de la chance, je trouverais le lieu de sa retraite, à moins qu'il n'ose à lui-même se manifester de nouveau, auquel cas je devais par un coup infaillible tuer cette créature monstrueuse que j'avais douée d'une caricature d'âme plus monstrueuse encore. Mon père, lui, souhaitait retarder notre départ, car il craignait que je ne supporte pas les fatigues du voyage, tant j'étais meurtri, l'ombre d'un être humain. J'étais sans force et nuit et jour, rongé par la fièvre. Pourtant, comme je me montrais inquiet et impatient de quitter l'Irlande, mon père crut bon de céder. Nous prîmes place à bord d'un navire qui partait pour le Havre, et avec un vent favorable, nous quittâmes les côtes irlandaises. Il était minuit. Étendu sur le pont, je regardais les étoiles et écoutais le bruissement des vagues. Je bénissais l'obscurité qui dérobait l'Irlande à ma vue, et mon cœur battait de joie à l'idée que bientôt j'allais revoir Genève. Le passé me donnait l'impression d'avoir été un odieux cauchemar. Pourtant, le vaisseau où je me trouvais, le vent qui me poussait loin des rivages de l'Irlande, la mer alentour, tout attestait que je n'avais vécu un songe et que Clerval, mon meilleur ami, avait été la victime du monstre que j'avais créé. En pensée, j'évoquais ma vie entière, ma sérénité quand je me trouvais avec ma famille à Genève, la mort de ma mère, mon départ pour Ingolstadt. Je me rappelais en tremblant le fol enthousiasme qui m'avait poussé à créer mon hideux ennemi et je revoyais la nuit où la vie lui avait été donnée. Je fus incapable de poursuivre le cours de mes pensées. 1000 sensations m'oppressèrent et je me mis à pleurer amèrement. Depuis que ma santé s'était rétablie, j'avais pris l'habitude de prendre chaque soir un peu de laudanum, car cette drogue me donnait la possibilité de recouvrer le repos nécessaire pour me maintenir en vie. Accablé par le souvenir de mes multiples malheurs, je bus le double de la dose ordinaire et bientôt m'endormis profondément. Mais le sommeil ne m'arracha pas de mes pensées et une infinité d'images sordides me traversèrent l'esprit. Vers le matin, une sorte de cauchemar me saisit. Je sentais autour de mon cou les mains du monstre, et je ne pouvais pas m'en dégager. Des hurlements et des cris me résonnaient aux oreilles. Mon père, qui veillait sur moi, s'en rendit compte et me réveilla. Les vagues nous entouraient, le ciel était nuageux, mais le démon n'était pas là. J'éprouvais une impression de sécurité, l'impression qu'il s'était produite une trêve entre le présent et mon avenir irréversible et tragique. Ce fut une sorte d'oubli paisible, celle-là même que l'esprit humain, en de telles occasions, suscite si facilement. Notre voyage était achevé. Une fois débarqués, nous nous rendîmes à Paris. Mais je dus bientôt admettre que j'avais présumé de mes forces et que je devais me reposer avant d'aller plus loin. Dans ses soins et ses attentions, mon père était infatigable, mais il ignorait les causes originelles de mes souffrances et recourait à des méthodes qui lui étaient sans effet sur mon mal incurable. Il voulait que je m'amuse en société, et moi je ne pouvais pas voir le visage d'un être humain. Oh non, les hommes, je les considérais plutôt comme des frères et même mes créatures les plus viles, de la même façon que les plus nobles m'attiraient. Mais voilà, il me semblait que je n'avais pas le droit de les fréquenter. J'avais déchaîné parmi eux un ennemi dont la seule joie consistait à verser le sang et à se délecter de malheur. Comme chaque homme, comme tous les hommes, me haïraient et me mettraient au banc de la société s'ils pouvaient connaître mes actes abominables et les crimes que j'avais engendrés. À la fin, mon père n'insista plus pour que je me mêle au monde et s'efforça de vaincre mon désespoir par la force de ses arguments. Il pensait souvent que j'avais été profondément marqué par l'accusation de meurtre qu'on avait fait peser sur moi, et essayait de me montrer que mon orgueil était dérisoire. « Hélas, mon père, dis-je, comme tu me connais mal. Les hommes, avec tout ce qu'ils ont comme sentiment et comme passion, seraient réellement avilis si un être aussi misérable que moi pouvait avoir de l'orgueil. Justine, la pauvre Justine était innocente, plus innocente que moi, et pourtant, on l'a accusée de meurtre et on lui a ôté la vie. Mais c'est à cause de moi, mais c'est moi qui l'ai tuée. William, Justine, Henri, ils sont tous morts par ma faute. Pendant mon emprisonnement, mon père m'avait souvent entendu tenir les mêmes propos. Lorsque je m'accusais de la sorte, il semblait parfois sur le point de me demander une explication, mais à d'autres moments, il avait l'air d'attribuer mes paroles au délire, comme si, pendant que j'étais malade, cette idée s'était présentée à moi et qu'elle avait continué à me poursuivre au cours de ma convalescence. J'évitais toute explication et ne révélais jamais rien concernant le monstre que j'avais fabriqué. J'étais persuadé qu'on me prendrait pour un fou, et pour cette raison, je gardais le silence. Du reste, je n'avais aucune envie non plus de révéler un secret qui plongerait mon auditeur dans la consternation et serait de nature à lui inspirer l'effroi et l'horreur. Je réprimais dès lors mon brûlant désir de sympathie et ne soufflais mot, alors même que j'aurais donné le monde en échange de mon fatal secret. Et pourtant, contre mon gré, je laissais échapper mes propos comme celles que j'ai rapportées. Je ne pouvais pas les expliquer, mais en les prononçant, je soulageais passablement mon mal mystérieux. Ce fut lors d'une telle circonstance que mon père me dit avec une expression d'étonnement « Mon cher Victor, de quoi parles-tu ? Oh, je t'en prie, ne prononce plus ces mots. » « Je ne suis pas fou !» m'écriai-je vivement. « Le soleil et le ciel qui ont été les témoins de mes actes savent que je dis la vérité. Je suis l'assassin de toutes ces victimes innocentes. Elles sont mortes à cause de mes machinations. J'aurais préféré mille fois verser mon propre sang goutte à goutte pour leur sauver la vie. » Mais je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas sacrifier le genre humain tout entier. La fin de mon propos fit croire à mon père que j'avais l'esprit dérangé, et aussitôt il changea de sujet en s'efforçant de donner un autre cours à mes pensées. Il cherchait par tous les moyens à effacer de ma mémoire le souvenir des événements qui s'étaient produits en Irlande. Il n'y faisait jamais allusion, pas plus qu'il ne parlait de mes autres souffrances. Avec le temps, je devins plus calme. J'avais toujours le cœur plein d'angoisse, mais je ne parlais plus de mes crimes de façon incohérente. Il me suffisait d'en avoir conscience. En faisant un violent effort sur moi-même, je brimais la voix impérieuse de ma tourmente, quand bien même je désirais parfois la révéler au monde entier. Ma conduite était plus paisible, plus équilibrée qu'elle ne l'avait jamais été depuis mon voyage sur la mer de glace. Quelques jours avant que nous quittions Paris pour nous rendre en Suisse, je reçus d'Elisabeth la lettre suivante. « Mon cher ami, c'est avec la plus grande joie que j'ai accueilli la lettre de mon oncle en provenance de Paris. Vous n'êtes donc plus très loin, et je puis espérer vous revoir dans moins de 2 semaines. Mon pauvre cousin, comme tu as dû beaucoup souffrir, je m'attends à te trouver plus pâle encore que tu ne l'étais à ton départ de Genève. L'hiver s'est passé fort tristement, tant j'étais dans l'anxiété. Mais je souhaite te retrouver plus détendu, plus tranquille, le cœur parfaitement en paix. Je crains néanmoins que tu ne sois toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que celles qui te rendaient si malheureux il y a un an. Et peut-être, au fil du temps, éprouves-tu plus de chagrin encore. Mais je m'en voudrais de te troubler en ce moment, alors que tu as déjà été si malmené. Il n'empêche, j'ai conversé avec mon oncle avant son départ pour l'Irlande, et j'en conclus qu'une explication est nécessaire entre nous. Une explication, vas-tu te demander? Mais quelle explication Elisabeth veut-elle donner? Si tu te poses réellement cette question, c'est que mes préoccupations sont sans fondement et que mes doutes n'ont aucune raison d'être. Mais tu es loin de moi. Il est possible que cette explication te fasse peur et qu'en même temps tu la souhaites. Si c'est le cas, je ne peux pas retarder plus longtemps ce besoin que j'ai de t'écrire, ce que j'ai si souvent voulu exprimer pendant ton absence, mais que je n'ai jamais eu le courage d'entreprendre. Tu sais bien, Victor, que depuis notre enfance, nos parents ont caressé l'espoir que nous nous marions. Quand nous étions jeunes, ils en parlaient déjà, et ils avaient la certitude que ce projet serait réalisé. À cette époque, nous nous aimions comme des camarades de jeu, et je crois qu'au fur et à mesure que nous avons grandi, nous sommes devenus des amis chers. Souvent, un frère et une sœur éprouvent l'un pour l'autre une profonde affection sans que l'amour entre en ligne de compte. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour nous? Dis-le-moi, mon cher Victor, je t'en prie, réponds-moi, pour notre bonheur à tous deux sincèrement. Est-ce que tu n'en aimes pas une autre? Tu as voyagé? Tu as passé plusieurs années de ta vie à Ingolstadt, et je t'avoue, mon ami, que lorsque l'automne dernier, je t'ai vu si malheureux, cherchant la solitude, fuir la compagnie de tout le monde, je n'ai pas pu m'empêcher de croire que tu regrettais ton engagement, mais que tu te sentais obligé, pour une question d'honneur, de répondre aux vœux de tes parents, quand bien même ton cœur s'y opposait. Mais c'est un mauvais raisonnement, je le confesse. Je t'aime, Victor. Dans mes rêves, tu m'apparais toujours comme mon ami, comme mon compagnon, le plus fidèle. Mais c'est ton bonheur que je désire autant que le mien, et je te déclare que si ton mariage devait être imposé et non librement consenti, j'en serais éternellement malheureuse. Je pleure en pensant que tu pourrais te sacrifier au mot « honneur » alors que tu as été frappé par les plus cruelles calamités et que seul l'amour et la joie sont de nature à te rendre ton équilibre. Moi, je t'aime d'un amour désintéressé et je ne voudrais pas attiser les tourments en me dressant comme un obstacle devant tes désirs. Ah, Victor! Sois assuré que ta cousine et ta camarade de jeu t'aiment trop sincèrement pour ne pas envisager avec crainte une telle solution. Sois heureux, mon ami, et si tu réponds à ma demande, sois certain que rien sur terre ne pourrait troubler ma tranquillité. Mais que cette lettre ne te perturbe pas. Ne me réponds ni demain, ni après-demain, ni même avant ton retour, si elle devait te peiner. Mon oncle m'enverra des nouvelles de ta santé, et si je distingue un seul sourire sur tes lèvres quand nous nous rencontrerons, un sourire qui aurait pour origine une de mes initiatives, je n'aurai plus besoin d'aucun autre bonheur. Elisabeth Lavensa, Genève, le 18 mai 1700. Cette lettre me remit en mémoire la menace du monstre que j'avais oublié. Tu me retrouveras la nuit de tes noces. C'était ma condamnation. Cette nuit-là, le démon mettrait tout en œuvre pour me détruire et m'enlever le rayon de bonheur qui aurait pu partiellement me consoler de mes souffrances. Cette nuit-là, ces crimes trouveraient leur apothéose dans ma propre mort. Bien, Il en serait donc ainsi. Nous allions engager un combat décisif, et s'il sortait victorieux, j'aurais la paix et son pouvoir sur moi serait terminé. S'il était vaincu, je redeviendrais un homme libre. Hélas, quelle liberté! Celle dont jouit le paysan après que sa famille a été massacrée sous ses yeux, quand sa ferme a été détruite, quand ses labours ont été dévastés et qu'il se retrouve seul, sans toit, sans bien, mais libre. Voilà comment serait ma liberté, sauf qu'avec Elisabeth, je posséderais un trésor. Malheureusement, un trésor que j'aurais reçu avec d'horribles remords et le sentiment d'une culpabilité qui me poursuivrait jusqu'à la fin de mes jours. Douce, tendre Elisabeth, je lus et relus sa lettre, et d'agréables sensations se glissèrent en moi, suscitant des chimères d'amour et d'allégresse. Mais la pomme avait déjà été mangée, et l'ange levait le bras pour m'interdire toute espérance. Pourtant, pour rendre Elisabeth heureuse, j'étais prêt à mourir. Si le monstre mettait sa menace à exécution, la mort était inévitable. Mais est-ce que mon mariage précipiterait mon destin? Le monstre pouvait en effet avancer de quelques mois la date de ma destruction, et s'il soupçonnait que pour ma part, j'envisageais de retarder mon mariage, épouvanté par ces menaces, il trouverait sûrement un autre moyen, peut-être plus terrible encore, d'assouvir sa vengeance. Il avait juré de venir la nuit de mes noces, mais cela ne voulait pas dire que dans l'intervalle, il ne se manifesterait pas. Et d'ailleurs, pour bien me montrer qu'il avait soif de sang, n'avait-il pas assassiné Clerval, immédiatement après avoir proféré ses menaces ? Aussi, je me dis que puisque mon mariage, dans les plus brefs délais, faisait à la fois le bonheur de ma cousine et celui de mon père, je ne pouvais plus le retarder, quelle que fût l'intention du monstre d'attenter à ma vie. Ce fut dans cet état d'esprit que j'écrivis à Elisabeth. Ma lettre était sereine et affectueuse. « Je crains, ma chérie, lui disais-je, que nous ne récoltions pas beaucoup de bonheur sur cette terre. Pourtant, celui que je peux encore trouver est en toi. Chasse donc tes craintes sans fondement. C'est à toi seul que j'ai consacré ma vie et c'est vers toi que vont tous mes efforts. J'ai un secret, Elisabeth, un secret abominable. Quand il sera révélé, tu en frémiras d'horreur et alors, loin d'être surprise de ma misère, tu t'étonneras que je vive toujours après tout ce que j'ai enduré. Je te rapporterai cette effroyable et lamentable histoire le lendemain de notre mariage, car, ma chère cousine, une parfaite confiance doit régner entre nous. Mais jusque-là, je t'en conjure, n'en fais ni mention ni allusion. Je te le demande avec force et je sais que tu en tiendras compte. » Une semaine après la réception de la lettre d'Elisabeth, nous arrivâmes à Genève. La délicieuse fille m'accueillit avec beaucoup de chaleur, mais des larmes lui montèrent aux yeux dès qu'elle vit que j'avais maigri et que j'avais les joues brûlantes de fièvre. Elle aussi avait changé. Elle était plus mince et l'avait un peu perdue de cette magnifique vivacité qui faisait son charme autrefois. Pourtant, sa gentillesse, ses regards pleins de compassion, la rendaient plus apte à devenir la compagne d'un être aussi déprimé, aussi misérable que moi. La tranquillité dont je jouissais alors ne dura pas longtemps. Mes souvenirs me rendaient fou, et quand je songeais à ce qui s'était passé, j'étais la proie d'une véritable crise de démence. Tantôt, je devenais furieux, enragé, tantôt je restais immobile, avachi. Je ne parlais plus, je ne regardais personne, et sans remuer, je ressassais la multitude des malheurs qui s'étaient abattus sur moi. Élisabeth seule avait le pouvoir de m'arracher de mes souffrances. Sa douce voix m'apaisait alors lorsque j'étais transporté par la passion, et elle m'insufflait des sentiments humains quand j'étais sous le coup de la torpeur. Elle pleurait avec moi et sur moi. Et dès lors que je découvrais la raison, elle me grondait et veillait à inspirer chez moi un peu de résignation. Ah, ceux qui sont malheureux peuvent bien se résigner, mais un coupable, lui, ne trouve jamais la paix. Les tortures du remords empoisonnent la sérénité qu'on rencontre parfois dans un excès de chagrin. Peu après mon arrivée, mon père aborda la question de mon mariage très prochain avec Élisabeth. Je gardais le silence. « As-tu donc pris un autre engagement ?»« Oh, parle-moi du monde. J'aime Élisabeth et j'envisage notre union avec joie. Fixons donc la date. Dans la vie ou dans la mort, je me consacrerai au bonheur de ma cousine. » Ne parle pas de la sorte, mon cher Victor. Nous avons déjà dû affronter de grands malheurs, mais nous devons nous rattacher davantage l'un à l'autre et reporter vers ceux qui nous restent l'amour que nous avions pour ceux que nous avons perdus. Notre cercle de famille s'est réduit, mais il y a lieu de resserrer plus encore nos liens d'affection mutuelle. Et quand le temps aura adouci notre désespoir, naîtront de nouveaux objets d'attachement, et ils remplaceront tous ceux dont nous avons été si cruellement privés. Tels étaient les conseils de mon père. Mais le souvenir de la menace me hantait toujours, et vous ne vous étonnerez pas que, devant la toute-puissance que le monstre avait manifestée à travers ses actes sordides, me fût venue l'idée qu'il était invincible. Quand il avait prononcé ces mots « Tu me trouveras la nuit de tes noces », j'y avais vu un avertissement dont l'issue était inévitable. La mort pouvait-elle être un mal pour moi si Élisabeth, elle, restait en vie? Aussi, ce fut d'un air content et même joyeux que je décidai avec mon père, sous réserve du consentement de ma cousine, que la cérémonie aurait lieu dans 10 jours. En même temps, j'imaginais fixer l'heure de mon destin. Grand Dieu, si j'avais pu un seul instant deviner les intentions diaboliques de mon implacable ennemi, je me serais plutôt exilé à jamais de mon pays natal et je me serais résigné à errer à travers le monde comme un paria au lieu de consentir à ce malheureux mariage. Mais, comme s'il avait possédé un pouvoir magique, le monstre m'avait dissimulé ses véritables intentions. Alors que je pensais avoir préparé ma propre mort, je hâtais celle d'un être que j'aimais. Comme approchait la date fixée du mariage, soit par lâcheté, soit en raison de quelques pressentiments, je me sentais fléchir. Mais je cachais mes états d'âme en me montrant joyeux, de telle sorte des sourires et la joie illuminaient le visage de mon père, sans réussir néanmoins à leurrer Élisabeth. Elle envisageait notre union avec sérénité, où pourtant affleurait une certaine crainte, résultant des malheurs que nous avions subis. Elle avait sans doute peur que ce bien-être, en apparence sûr et tangible, ne disparut soudain comme un rêve et ne laissa d'autre trace qu'un profond et immense regret. Les préparatifs allaient bon train. Nous recevions des visites de félicitations et tout donnait l'impression de l'allégresse. Je dissimulais autant que je le pouvais l'anxiété qui me rongeait le cœur et semblait, sans détour, m'intéresser au plan de mon père, lequel était peut-être occupé à dresser le décor de ma propre tragédie. Grâce à ces démarches, il avait pu obtenir du gouvernement autrichien qu'une partie du patrimoine d'Élisabeth lui soit restituée. Elle possédait une petite maison de campagne en bordure du lac de Côme, et il avait été décidé qu'aussitôt après notre mariage, nous partirions pour la Villa Valenza et que nous passerions nos premiers jours de bonheur près de ce lac superbe. Entre-temps, je pris toutes mes précautions pour me défendre au cas où le monstre aurait voulu ouvertement s'attaquer à moi. Je portais sans cesse sur moi des pistolets et un poignard, et j'étais toujours sur mes gardes pour prévenir la moindre ruse. Par là, je m'assurais une plus grande tranquillité. À la vérité, à mesure qu'approchait le jour de la cérémonie, la menace du monstre me semblait illusoire, peu susceptible de troubler ma paix, et du coup, le bonheur que j'espérais trouver dans le mariage prenait chaque jour plus de poids. Et cela se confirmait aussi par le fait que j'entendais à tout moment dire autour de moi que rien ne pouvait plus désormais mettre cet événement en péril. Élisabeth semblait heureuse. Ma sérénité contribuait largement à assurer le calme de son esprit. Mais le jour où nos désirs et ma propre destinée allaient enfin s'accomplir, elle devint mélancolique et un triste pressentiment s'empara d'elle. Peut-être pensait-elle au formidable secret que je lui avais promis de révéler le jour après notre mariage. Dans le même temps, mon père rayonnait de joie et ne voyait dans la mélancolie de sa nièce qu'un signe de timidité. Après la cérémonie, de nombreux invités se réunirent dans la maison de mon père. Il avait été convenu qu'Élisabeth et moi commencerions notre voyage par eau et qu'après avoir dormi à Évian, nous le poursuivrions le lendemain. La journée était belle, le vent favorable, tout souriait à notre voyage de noces. Ce furent les derniers moments de ma vie pendant lesquels j'éprouvais encore des sentiments de bonheur. Nous voguions à bonne allure. Le soleil chauffait, mais nous étions protégés par une espèce de dais et admirions la beauté du paysage, le mont Salève, les jolies berges de Montalegre et à une certaine distance, dominant tout, le magnifique Mont Blanc et l'ensemble des montagnes enneigées qui s'efforcent vainement de rivaliser avec lui. Parfois, au-delà de la rive d'en face, nous voyions le tout-puissant Jura opposer ses flancs obscurs aux ambitieux qui veulent quitter leur pays natal, former une infranchissable barrière devant l'envahisseur qui aurait voulu le réduire en esclavage. Je pris Élisabeth par la main. « Tu es triste, mon amour, ah, si tu connaissais mes souffrances passées, si tu connaissais celles que je dois encore subir, tu mettrais tout en œuvre pour que je puisse goûter aujourd'hui mes dernières heures de joie, loin de tout désespoir. « Sois heureux, mon cher Victor, » me répondit Élisabeth. « Il n'y a ici, je pense, rien qui puisse te perturber. Sois certain que si la joie ne se lit pas sur mon visage, mon cœur, lui, est comblé. » Quelque lointain pressentiment m'empêche de trop m'épancher. Mais je ne veux pas écouter cette voix sinistre. Regarde comme nous progressons, comme les nuages qui tantôt couvrent et tantôt découvrent le sommet du Mont Blanc rendent le panorama plus beau encore. Peux-tu entendre les innombrables poissons qui nagent dans l'eau limpide où nous pouvons distinguer chaque caillou au fond du lac? Quel jour divin, comme la nature entière semble heureuse et sereine. Élisabeth essayait ainsi de chasser de ses pensées et des miennes toute trace de préoccupation mélancolique. Mais son humeur était changeante. À certains moments, la joie brillait dans ses yeux, puis de nouveau, elle se laissait aller à la rêverie. Le soleil descendait à l'horizon. Nous avions passé la Durance et nous observions ses méandres à travers les ravins et le long des collines. Ici, les Alpes enserraient le lac et nous approchions de l'amphithéâtre de montagnes qui le borde à l'est. Le clocher Lévian brillait au-dessus des bois qui entourent la ville et au pied des chaînes de montagnes qui la surplombent. Le vent, qui jusqu'alors nous avait entraînés avec une rapidité étonnante, ne devint plus qu'une légère brise. Son souffle suffisait à peine à rider l'eau et à agiter faiblement les arbres. Nous étions près du rivage, d'où nous parvenaient des senteurs délicieuses de fleurs et de foin. Le soleil disparut à l'horizon comme nous débarquions, et je sentis ressurgir en moi les effrois et les tourments qui allaient bientôt s'accomplir et me ronger pour toujours.